Le terme démocratie nous renvoie au grec ancien démocratia, combinaison de démos, signifiant peuple, associé à kratos, pouvoir, autrement dit, souveraineté du peuple. La démocratie désigne le régime politique dans lequel le peuple a le pouvoir. La première démocratie connue est celle de la cité d'Athènes dans la Grèce antique autour du 5e siècle avant Jésus-Christ, avec comme base fondamentale l'assemblée générale des citoyens et le tirage au sort des hommes politiques. On pouvait alors parler de démocratie réelle. Un sujet de prédilection pour Dominique Bourg, professeur à la faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne, intervenant à l'Université d'été d'Utopia à Mandelieu. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages, il est ou a été membre de plusieurs commissions françaises. La commission Coppens, chargée de préparer la charte de l'environnement, désormais adossée à la Constitution française, ou encore le Conseil national du développement durable. Il a été aussi vice-président de la commission 6 du Grenelle de l'environnement. Dans ce reportage réalisé par Véronique Herman et dont la version complète est disponible sur notre site Castellane, il évoque différents sujets sur la santé de la politique nationale et internationale.
Quelle est votre vision de la démocratie française ?
Ah, une démocratie malade. De façon très claire, pour plusieurs raisons. À chaque scrutin, désormais, on voit que les gens qui vont finir par être élus ont un score relativement faible, souvent en dessous de 25%, alors qu'autrefois, les élections présidentielles, Giscard, etc., c'était du 30-35% au premier tour, puis après, ils arrivaient à 50%. Le nombre de gens qui ne viennent plus voter, alors les gens qui ne sont même pas inscrits, auxquels vous rajoutez évidemment les suffrages non exprimés avec les abstentions, on arrive au fait que souvent, les gens qui sont élus ont derrière eux, au mieux, un quart de la population, si ce n'est pas même un cinquième. Donc là, il y a vraiment une crise importante, et alors on le voit très bien en France, parce que systématiquement, quand un pouvoir est élu, ben, ça se termine très vite dans la rue. Manifestement, il n'y a pas d'accord, en fait, avec la population. Et puis, je dirais que la 5e République finissante aggrave encore les choses, parce que le système présidentiel où on focalise tout, hein, et avec les États-Unis, on est le seul pays à avoir un président qui ait tel pouvoir. Partout ailleurs, ce sont des régimes primo-ministériels avec un premier ministre qui est responsable devant le Parlement. Là, on a justement un président qui n'est pas responsable devant le Parlement, qui a à la fois d'immenses pouvoirs, mais en même temps, on voit bien dont les pouvoirs sont limités, qui engendre un effet de cour qui est complètement isolé. Et puis par ailleurs, ben, la vie politique, la vie des partis se réduit à entretenir des écuries présidentielles avec des étalons qui sont de plus en plus stupides. Et enfin, c'est pas gentil, ben, c'est pas vrai pour tous, hein, y a des gens quand même de qualité, mais on a plutôt un type humain qui descend vers le bas. Et puis, quand bien même ces gens ont des idées, ben, c'est pas du tout le problème. La course présidentielle fait que c'est une course à petites phrases, à sales coups, etc. On réduit la vie politique vraiment à une peau de chagrin. Et si on réforme pas ce système-là, je vois vraiment pas comment on peut réformer cette société française malade.
Qu'est-ce qu'on peut penser du fait que le 49-3 a été appliqué à trois reprises et qu'un président fasse campagne sur un programme qu'il ne respecte absolument pas?
C'est un des symptômes de cette crise, hein. Effectivement, entre la campagne de François Hollande, ses rodomontades sur la finance, en quoi il n'avait sans doute pas tort, et puis finalement, la rentrée précipitée dans le rang, et en fait, une politique néolibérale qui est à peu près la même que celle qu'aurait faite n'importe quel autre chef d'État issu de la droite, c'est quand même relativement dramatique. C'est très dangereux parce que d'une part, ça veut dire que le système politique n'embraye plus sur rien, ça n'a plus aucune importance. Mais alors, en revanche, ça pousse évidemment les électeurs les plus en difficulté, les plus perdus, vers les régimes d'extrême droite qui leur promettent que eux, vous allez voir, et on va voir ce qu'on va voir. C'est extrêmement dangereux, c'est complètement irresponsable d'agir ainsi.
Est-ce que nos chefs d'État n'ont pas les pieds et poings liés ?
Alors, c'est pas que nos chefs d'État, c'est-à-dire que c'est toute la réforme néolibérale depuis les années 90, avec d'un côté une déréglementation, des instruments financiers complètement nouveaux, très sophistiqués mathématiquement, une dérégulation, un amoindrissement des frontières, et donc la création d'un marché mondial par rapport auquel aujourd'hui plus aucun État, même presque un ensemble d'États, peut faire face. Donc on a créé une situation qui est une situation terrible, d'évidement du sens des démocraties, de pourrissement, et on en voit aujourd'hui le résultat, c'est-à-dire que partout émergent des figures qui font croire aux gens qu'ils sont tout puissants, qu'ils sont des figures, comme on dit, même si j'aime pas trop l'expression populiste, un Erdogan ou un Poutine ou un Trump, c'est un peu le même genre d'individu, quoi, ou un Sarkozy en plus petit. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Le système démocratique n'est pas compatible très longtemps avec ce type d'organisation de la vie économique.
Quel serait pour vous l'idéal de la démocratie, une démocratie réelle ?
Ah, alors moi je vis dans un pays bon, qui a bien des défauts, mais qui a aussi beaucoup de qualités. En tout cas, sur le plan de la vie démocratique, la Suisse, c'est quand même un pays intéressant. Le système des votations fait qu'il y a une responsabilité en général de la population. Les Suisses font pas n'importe quoi dans leurs votations. Et vraiment, ils sont pris au sérieux et ils ont vraiment l'impression, et puis c'est plus qu'une impression, de pouvoir vraiment, dans leurs décisions, influer assez puissamment sur la vie. Alors pourtant, il y a un capitalisme très fort, etc. Voilà, c'est un exemple intéressant à regarder. Parce qu'on n'y a pas dans ce pays l'idée, si vous voulez, d'un pouvoir politique faible. C'est assez étonnant. C'est sans doute le seul pays en Europe.
Il y a des économistes et un homme politique, pour ne pas le nommer celui du Front de Gauche, qui parlent de réécrire la Constitution. Est-ce que c'est possible ?
Ah oui, bien sûr, c'est possible. Alors, c'est pas simple, hein, parce que l'article 89 décrit la procédure de changement de la Constitution. Et donc, c'est les deux actuelles assemblées, ceux qui sont vraiment les détenteurs du système actuel, qui peuvent approuver ou non une réforme. Donc on voit bien par exemple que si on voulait supprimer le Sénat, c'est impossible. Puisque pour le vote final au Congrès, il faut qu'il y ait une majorité, je crois, des 3/5. En fait, l'article 89 tel qu'il est conçu aujourd'hui est fait pour des aménagements de la Constitution, mais il est fait pour qu'on ne puisse pas la réformer. Et donc, avec la Fondation Nicolas Hulot, à l'initiative des juristes qui ont travaillé avec nous, et d'un tout particulièrement, on a émis l'idée d'un référendum appuyé sur l'article 11 qui permettrait une dérogation à l'article 89 pour effectivement pouvoir entamer une véritable refonte constitutionnelle. Et là, moi, je suis exactement sur la même longueur d'onde que Jean-Luc Mélenchon. Lui a compris la crise dans laquelle on est et il a compris que sans changement constitutionnel, on ne pourrait pas faire front. Et je trouve que sur ce plan-là, c'est très intelligent et je pense qu'il a complètement raison.
Et que dire de la croissance ou de la décroissance ?
Les deux mots ont cela de gênant qu'ils nous font croire qu'on peut avoir une orientation unique, monotone en toute chose. Dans un cas, il faudrait absolument croître. Alors, c'est effectivement ce qu'on fait, malheureusement. Enfin, ce qu'on fait, tendons-nous bien, pour le PIB. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, la croissance ne débouche plus sur ses fruits. Autrefois, la croissance débouchait sur une amélioration du bien-être et on l'a vraiment connue durant les Trente Glorieuses. Et c'est plus le cas depuis même presque 40 ans maintenant. En tout cas, la relation est plus mécanique du coup. Et dans beaucoup de cas, c'est absolument pas ce qui se produit. C'est même l'inverse, c'est une dégradation du sentiment de bien-être. Depuis 20 ans, la croissance ne débouche plus sur une création nette d'emplois. Il y a toujours eu destruction, mais il y avait plus de création que de destruction. C'est absolument plus le cas aujourd'hui. Depuis 20 ans. Et alors, si on en croit certaines analyses, avec effectivement notamment les progrès en termes d'intelligence artificielle et de robotique, on peut s'attendre à beaucoup de destruction. On voit simplement ce qu'on appelle la voiture autonome aujourd'hui, c'est à portée de main. Puis, troisième fruit qu'elle ne donne plus, là, c'est depuis moins longtemps encore que c'est contestable, enfin, au moins depuis 2008, on a, au moins, hein, ça a commencé avant, mais on a une explosion des inégalités. Et c'est devenu même indécent. Et même le FMI maintenant tire la sonnette d'alarme là-dessus. Donc, en fait, continuer à voir dans l'indicateur du PIB une espèce de miroir des améliorations générales de la situation, c'est faux. C'est faux. Et puis, ça nous entraîne vers quelque chose d'absolument effrayant, c'est-à-dire une surartificialisation qui pourrait nous faire nous effondrer, d'ailleurs. Parce qu'on va manquer de ressources, parce que le climat, ça commence à tanguer, et etc. Alors, faut-il décroître en tout point et avoir le même raisonnement, penser qu'il suffit de décroître pour que ça aille bien ? Non, ben évidemment, ça c'est ridicule. En revanche, qu'il faille faire décroître nos flux de matière et nos flux d'énergie, je pense qu'on n'a pas tellement de choix, et qu'on l'a d'autant moins que nous sommes 7 milliards 400 millions, et que nous serons probablement 10 milliards au mi-temps du siècle. Mais ça doit être fait de façon intelligente, c'est un défi énorme, et on ne sait pas exactement aujourd'hui, soyons clairs, comment fonctionnerait une société sans la dette permanente, sans le crédit. C'est ça que ça veut dire, sortir de la croissance. Ce n'est pas une chose simple, c'est sans doute ce vers quoi il faut aller, mais c'est sans doute très compliqué, il faut le faire en tâtonnant et de façon prudente.
Comment voyez-vous l'avenir de l'humanité ?
Mal. Dans la passe, on est très très mal. Alors, c'est pas l'avenir, c'est les décennies qui viennent. Oui, ça, je crois que c'est très difficile d'être optimiste. Faut être assez inconscient quand même. Maintenant, au plus long cours, peut-être que les épreuves qui vont nous arriver vont nous amener à nous ressaisir, à être moins déments, moins égoïstes. En tout cas, il faut voir dans toutes ces épreuves un moyen d'aller vers ça. On n'a pas de choix. C'est la seule orientation un peu intelligente. Maintenant, on est au seuil de l'aventure. Ce qu'il en adviendra, j'en sais fichtre rien comme vous.
Edgar Morin a lancé un appel pendant cette université d'été pour l'unification des citoyens. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est excellent, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Il a complètement raison. Bravo pour cet appel. Moi, je le souscris des deux mains et avec la tête en plus.
Est-ce que les consciences sont prêtes ?
Alors, c'est ça qui est très paradoxal dans la situation. On voit avec un film comme Demain, par exemple, il y a quand même une partie de la société qui voudrait vraiment vivre autrement. Elle est minoritaire, elle est écrasée par le reste. Est-ce qu'elle arrivera à convaincre le reste ? C'est tout le combat qu'il y a devant nous, mais encore une fois, pas plus que vous, je ne connais l'issue. Mais en tout cas, le côté où je suis, ça, j'ai aucun doute.